J'ai cherché à l'est, j'ai cherché à l'ouest, j'ai cherché au nord, j'ai cherché au sud, j'ai cherché encore. J'ai regardé, regardé dedans, regardé dehors, j'ai refait le tour de l'autre bord.
Marc Derry et la pièce T'es où ?
Alors maintenant, la portion culturelle finit le clivage entre les volets franco et anglo. On parle de Juste pour rire, Just for Laugh, Véronique Lauzon dans la presse d'aujourd'hui. Pour la première fois, Juste pour rire et Just for Laugh ont dévoilé leur programmation ensemble lors d'une conférence de presse. Les directeurs parlent d'une nouvelle ère où les francophones et les anglophones travailleront conjointement. De plus, exit les thèmes dans les galas. Le copropriétaire Howie Mandel, le directeur de Zoo Fest, Patrick Roson, le président-directeur général de Just for Laugh, Bruce Hills, et la productrice exécutive du volet Rue, Lynn Thériault, sont tous montés sur la scène du Club Soda pour parler de la programmation de la 36e édition, qui aura lieu du 14 au 29 juillet. « Nous ne voulions plus de mur entre nous tous », dit Patrick Roson. Parmi les têtes d'affiche, il y aura Russell Peters, Mike Ward, Maria Bamford, Jean-Marc Parent, Kenya Barris, Alexandre Barrette, David DeCross, Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques, Lisa Schlesinger et Corinne Côté. Les 5 galas francophones, moins que l'an dernier, seront animés par Laurent Paquin, Les Denis Drolet, Jérémy Demey, Sam Breton et Pierre-Luc Funk. Par le passé, de nombreux artistes ont critiqué les thèmes imposés, Juste pour rire les a entendus et il n'y en aura plus. Les humoristes ont maintenant carte blanche pour présenter le numéro de leur choix. Il y aura aussi plus d'artistes dans chaque gala. Nous étions déjà en train de repenser le festival Juste pour rire. Nous voulions l'amener ailleurs. La crise, c'est con, mais ça a propulsé tout ça. Ça fait en sorte que nous avons pu attaquer directement le problème et décider comment nous allions changer ça, explique Patrick Rozon. Depuis son arrivée à la tête de ZooFest en décembre 2014, Patrick Rozon a redressé cette division de Juste pour rire. Il y avait plein de problèmes financiers et de communication. Je me souviens que je disais souvent, et je le cite, « Chris, si un festival de cinéma pour jeunes du secondaire est plus professionnel que ZooFest, il y a un problème », avait expliqué Patrick Rozon à la presse en juillet dernier. À cette même époque, Jay Dutemple nous avait confié qu'il avait décidé de son plein gré de ne pas participer au festival Juste pour rire, mais qu'il était ravi de monter sur scène au ZooFest. De nombreux autres artistes semblaient bouder le grand festival de l'humour, lui préférant son petit frère. Juste pour rire est un peu le Chanel de l'humour. Il fallait trouver un moyen d'intéresser les jeunes humoristes connus à y venir, dit M. Rozon, Patrick de son prénom, directeur de ZooFest. Comment peut-on mixer les deux, c'est-à-dire mélanger les stars connues et ceux qui sont en train de percer et qui sont déjà très forts? C'est la balance que nous essayons d'atteindre et on va le sentir beaucoup dans les galas, promet-il. Le gala de Sam Breton est d'ailleurs consacré à ZooFest, qui célèbre ses 10 ans d'existence cette année. Le gala de Pierre-Luc Funk présentera lui aussi une brochette de jeunes humoristes. Oui, le festival Juste pour rire veut rajeunir son public. Un Jay Dutemple pourrait-il revenir sur les planches du festival Juste pour rire? Absolument, dit Patrick Rozon en souriant. Après le scandale Gilbert Rozon, des humoristes ont hésité à s'associer de nouveau à Juste pour rire. Ce fut le cas de Pierre-Luc Funk. Après tout ce qui est arrivé, je voulais m'assurer qu'il y avait eu un changement de direction et que le ménage avait été fait, dit-il. C'était beau pendant la conférence de voir les Anglais et les Français ensemble. On sent qu'il y a maintenant une famille, qu'ils ont uni leurs forces. Ça fait du bien de sentir ce désir de changer les choses ensemble, a dit Pierre-Luc Funk, animateur d'un des galas. Anaïs Favron a elle aussi exprimé sa joie de voir les anglophones et les francophones unis dans cette prochaine édition. Mais contrairement à Pierre-Luc Funk, celle qui animera le Super Quiz Show sur une des scènes extérieures n'a pas hésité à travailler de nouveau avec Juste pour rire. « Pour moi, ça allait de soi de revenir. Juste pour rire est beaucoup plus grand que son créateur. Ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Et concrètement, je ne le voyais pas, Gilbert Rozon. Ce n'est pas avec lui que je travaillais, dit l'animatrice. » Anaïs Favron se dit heureuse de voir les changements s'opérer et de voir les nouveaux propriétaires. J'ai l'impression qu'au lieu de vivre une édition un peu plus noire, on va jumper, on va aller plus loin. Serge Denoncourt dirige 30 jeunes garçons dans une adaptation du populaire film Les Choristes. En 2004, le gentil film du français Christophe Baratier avait conquis bien des cœurs à travers le monde. Serge Denoncourt n'était pas de ceux-là. J'étais trop vieux pour aimer ça et trop jeune pour en voir le côté nostalgique de l'enfance. Le méchant juge des dieux de la danse, méchant étant entre guillemets, a donc commencé par refuser la mise en scène de ce récit plein de bons sentiments. C'est un texte de Marie Labret que je vous en lis quelques passages. Puis, en revoyant Les Choristes, il a réalisé que même si le film est sans aspérité et très consensuel, c'est l'histoire d'un homme qui va dans un milieu défavorisé aider des jeunes sans avenir. Une expérience qu'il a lui-même vécue auprès de Rome, vivant dans un bidonville avec le spectacle Grob. C'est surtout cette situation de transmission, cette position de mentor avec des enfants, qu'il a eu envie de répéter à travers le projet. Les choristes demandent une énergie complètement différente de celle du metteur en scène normal. On est coach de hockey, animateur, j'adore ça, dit Serge Denoncourt. Alors, on pourra voir les choristes du 23 mai au 23 juin dans le cadre du festival Juste pour rire. En fait, c'est une production de Juste pour rire au Monument national. Et en juillet, le metteur en scène va diriger Edmond du français Alexis Michalik, aussi produit par Juste pour rire. Une organisation devenue pestiférée pour plusieurs. Denoncourt, lui, a décidé de ne pas se retirer de ses projets. Il estime qu'en liant les spectacles aux allégations contre le fondateur, on mélange deux sujets. « Si j'annule ces shows, je punis qui? Je punis 40 acteurs, des concepteurs, le public, pas le principal concerné. » À l'été 2019, Denoncourt, recruté par des Français émus par son dialogue des Carmélites, va créer Bernadette de Lourdes sur les lieux de la dite apparition de la Vierge. C'est l'histoire d'une fille de 13 ans qui tient tête à tout le monde, dont il a écrit le livret à partir des interrogatoires du Vatican. Un autre projet où personne ne l'attendait, à commencer par lui, le non-croyant. Mais c'est ce que je trouve formidable. J'ai 56 ans et je n'avais pas essayé ça encore, une comédie musicale religieuse. Le plagiat en humour défraie la chronique en France depuis que le YouTuber CopyComique diffuse des vidéos faisant état de similitudes troublantes entre les sketchs de certains humoristes. Faisant flèche de tout bois, Sugar Sammy a lancé là-bas une campagne de publicité signée par l'agence québécoise LG2 qui fait directement référence à cette controverse. « Faites vite avant que ces blagues soient reprises par des humoristes français », clame une affiche annonçant sa série de spectacles à venir à l'Alhambra, à Paris, affiche dont il a diffusé une photo sur Twitter. Invité sur le plateau de l'émission Clic Dimanche à Canal+, en novembre dernier, l'humoriste québécois avait qualifié d'inquiétant le phénomène du vol de blagues dans l'Hexagone. Le distributeur Séville International a annoncé hier soir que Sony Pictures Classics a acquis les droits de la chute de l'Empire américain de Denis Arcan pour distribution aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les droits du film ont aussi été vendus à d'autres distributeurs pour la Chine, la Russie, la Grèce et Taïwan, entre autres. Par ailleurs, les films Séville et la maison de production Cinémaginaire ont dévoilé hier la bande-annonce officielle du film qui sortira en salle le 28 juin. L'œuvre raconte l'histoire d'un jeune livreur bardé de diplômes mais sans le sou, qui est confronté à ses valeurs lorsqu'il se retrouve avec une énorme somme d'argent volée entre les mains. Travis Cormier se produira en première partie de Bon Jovi demain, toujours sous l'aile d'Éric Lapointe depuis son passage à La Voix en 2016. Travis Cormier pourra bientôt compter sur l'aide d'une autre icône du rock pour lancer sa carrière, Bon Jovi. Le jeune chanteur espère profiter de sa prestation en première partie du groupe américain pour relancer la Travis Mania au Centre Bell demain soir. Au départ, tout est arrivé tellement vite, il parle de son expérience à La Voix. D'un jour à l'autre, je me suis retrouvée à être connue par des millions de gens. Ça m'a beaucoup mis de pression, ça m'affectait. Alors après La Voix, j'ai voulu me donner un an pour écrire des chansons qui seraient à la hauteur. Deux ans plus tard, mon album est terminé et je réalise que ça a valu la peine d'attendre, explique le chanteur.
Love. marcher se découvre. L'arbre penché se découvre. La même odeur qui me prend premier jour.
D'entendre la formation Canary qui nous chantait Passager.
Le dessert des Montréalais, c'est dans le Journal de Montréal, Andrea Jourdan. Patrice Demers est un pâtissier exceptionnel. Il est célébré pour son talent qui n'est plus à démontrer depuis Belle Lurette, son humilité qui est naturelle et son savoir-vivre. Que la Ville de Montréal lui ait demandé de créer une recette spéciale pour le 375e anniversaire de sa fondation n'est pas surprenant. Pourquoi pas? Fille de pâtissier moi-même, écrit Andrea Jourdan, je tiens aussi à féliciter l'ex-maire Coderre. Pas pour avoir acheté une recette, mais plutôt pour son choix de pâtissier. Tant qu'à choisir, il est vrai que si on a le budget, autant se payer le meilleur. Pour l'occasion, Patrice Demers a créé un dessert complexe qui utilise des ingrédients typiquement montréalais. Melasse, bière, miel et sarrasin. Puisque la ville l'a acheté, c'est maintenant la recette de tous les Montréalais. Que faire de cette recette? On pourrait fêter la Fondation de Montréal tous les ans et tous les pâtissiers pourraient offrir le dessert de Patrice au prix modeste de 1 $. Il y a les fous de la cuisine qui, je l'espère, vont essayer la recette et inviter 300 convives. En fait, cette recette pourrait devenir le gâteau de toutes les occasions. Mariage, baptême, party de grosse famille auraient désormais leur gâteau et plus jamais on ne se demanderait ce qu'on mange comme dessert. Le seul hic, c'est que cette recette est complexe. Puisque nous l'avons payée, nous devrions pouvoir la préparer dans nos chaumières. Pourtant, ce n'est pas le cas. La recette est calculée pour 300 portions. Elle compte trop d'étapes. Personne n'a l'équipement nécessaire à la maison pour venir à bout de la fabrication de ce gâteau. Pire, trouver les ingrédients exacts de la recette peut se transformer en quête du Graal. La bière, j'ai une équipe de 3 personnes qui ont mis plus de 2 jours à la trouver. Le miel de l'accueil Bonneau, pas facile de le trouver et en vendre dans seulement quelques épiceries. J'ai dû aller jusqu'à l'accueil Bonneau pour le trouver. Je sais, n'importe quel miel fera l'affaire, mais les puristes de Montréal voudront sûrement goûter la véritable recette. Et bien sûr, il y a les chocolats de la gamme de Valrhona qui ne sont pas disponibles partout. Pour le commun des Montréalais, il faut beaucoup de temps de recherche puis de préparation. Enfin, certains se sont offusqués que la Ville de Montréal ait payé 1 000 $ pour obtenir les droits sur la recette. Il faut comprendre que la vente de recettes est une pratique courante dans le milieu de la gastronomie. Plus le chef est reconnu, plus son tarif est élevé. De nombreux chefs, moi y compris, en ont vendu à des restaurants, des magazines, des webzines ou tout simplement à des clients qui veulent se faire plaisir. Les prix des recettes varient et si le client exige une exclusivité, le prix sera beaucoup plus élevé. Et pour aller plus loin, tous ceux qui se paient un livre de recettes achètent des recettes. Nous avions la poutine, le bagel et le smoked meat de Montréal. Pourquoi se contenter de ces plats délicieux, certes, mais assez banals? Vous avouerez que le gâteau de Patrice relève la barre et place Montréal avec Paris au niveau de grandes villes pâtissières. Rien que pour cela, ça valait la peine. Maintenant, profitons-en. Alors, on poursuit dans la lignée de ce dessert. Le journal Cuisine, le fameux dessert à 1 000 $ créé par Patrice Demers pour le 375e. On nous donne la recette de ce chocolat, de ce gâteau au chocolat, donc Andoa, mélasse, miel de Bonneau, bière et sarrasin. La chef et chroniqueuse au journal, Andrea Jourdan, a préparé le dessert du pâtissier Patrice Demers en suivant à la lettre la recette achetée 1 000 $ par la Ville à l'occasion des célébrations de son 375e anniversaire. Il y a 1 an, les invités du maire de Montréal, Denis Coderre, avaient découvert le dessert de Patrice Demers. Maintenant, c'est un article signé Étienne Paré, toujours dans le journal. Pour l'occasion, Montréal avait déboursé 4 700 $, 2 100 $ pour 700 bouchées, 1 000 $ pour les droits de la recette et 1 000 $ pour la présence du pâtissier. À l'occasion du 376e anniversaire de Montréal, le journal a préparé le fameux dessert. Premier constat, mettre la main sur tous les ingrédients relève de la course à obstacles. Pour le pâtissier Patrice Demers, tout devait rappeler Montréal. La mélasse, qui fait référence au défunt quartier du Faubourg à Amelas, le sarrasin, qui a occupé une place centrale dans la gastronomie montréalaise, la bière brassée à la brasserie de Montréal et le miel produit à l'accueil Bonneau. Deuxième constat, la recette est compliquée. Réaliser toutes les étapes de sa préparation demande une expertise qui dépasse celle du cuisinier moyen. En lisant la recette, on comprend vite qu'on est condamné à l'échec. Dans sa cuisine professionnelle, l'équipe d'Andrea Jourdan a relevé le défi. Au final, ça donne un doux mélange d'amertume et de sucré, très riche, qui surprend à la première bouchée. Le Journal de Montréal a fait goûter le dessert aux Montréalais. Le résultat est mitigé. C'est évident que ce n'est pas aussi accessible qu'un gâteau au chocolat ou au caramel. C'est un gâteau qui demande une certaine introduction pour l'apprécier, reconnaît celui qui a eu le délicat mandat de le concocter, le réputé pâtissier Patrice Demers. Le journal a fait goûter à quelques Montréalais choisis au hasard. Leur verdict? Riche, un peu amer, mais savoureux. Ils y ont goûté. « Ce n'est pas un bon investissement pour Montréal », a dit Guillaume Gélina. « C'est bon, mais ce n'est pas « wow », a dit Amir Essaati. « C'est vraiment bon, je donne 10 sur 10 », Isaac Azibuo. Et chaque partie du gâteau a un goût unique, mais essentiel, un peu à l'image de Montréal et de ses quartiers finalement. C'est ce qu'a dit Aline Bertrand après avoir goûté la chanceuse au fameux dessert de Patrice Demers. Éloge du grand écrivain, c'est Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal. Richard Martineau en parlait hier. Tom Wolfe, un des grands écrivains américains de notre temps, vient de mourir à l'âge de 88 ans. Comme tous les grands écrivains, il ne se contentait pas de savoir raconter une histoire, ce qui est déjà beaucoup. Il avait une vision du monde et décryptait la société à partir de ses obsessions et d'un sens aigu de l'observation. Il voyait le monde et surtout ce que le monde refuse qu'on voit de lui. Il savait percer les apparences. Il a démasqué l'hypocrisie américaine de la plus belle manière, dans un style propre aux grands écrivains américains qui sont souvent de grands journalistes. À la différence des écrivains sirupeux qui veulent nous préparer du bouillon survitaminé pour l'âme, il se représentait la société comme une formidable comédie humaine qu'il s'était donnée pour mission de décrire. Si j'écris à son sujet aujourd'hui, c'est non seulement pour lui rendre hommage, mais pour rappeler l'importance des grands écrivains dans une vie. Les Québécois, on le sait, ne sont pas de grands lecteurs. La littérature n'occupe pas chez nous la même place qu'en France. Au Québec, le grand lecteur demeure une créature exotique. Rares sont ceux qui goûtent le plaisir de se construire une bibliothèque personnelle au fil de leur vie et de l'habiter mentalement de plus en plus. Et pourtant, qui rencontre la grande littérature dans son existence en sera très probablement transformé. Il découvrira un monde qui permet moins de fuir la réalité qu'il ne la transfigure et la révèle sous un autre visage. J'ajoute que dans une société du tout à l'écran qui assèche notre imagination en nous représentant le monde à notre place, la littérature nous réapprend la liberté d'imaginer la vie par nous-mêmes. Déplaçons-nous dans l'univers francophone. Lire de grands écrivains, quoi qu'on en pense, ne veut pas seulement dire les classiques de notre siècle. Évidemment, il faut les lire, mais il y a des écrivains bien vivants qui peuvent nous bouleverser. Qui lira Michel Houellebecq, par exemple, comprendra mieux l'espèce de fatigue existentielle en forme de névrose sexuelle qui domine le monde occidental? Qui lira Sylvain Tesson et ses récits découvrira l'esprit d'aventure et le véritable sens de la liberté? À mes étudiants, je donne souvent ce conseil, découvrez un auteur qui vous passionne et plongez dans son œuvre. Vous y trouverez un monde qui vous donnera ensuite envie d'y revenir, tout en découvrant des nouveaux. Ce conseil, je vous le donne aussi, amis lecteurs. Éloge du grand écrivain Mathieu Bock-Côté. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Bonne journée. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve tantôt au Par Actualité.